parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, les lignes pour la bordelle.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du 1er décembre 2022. Je suis, comme tous les jeudis, accompagnée de mon très cher Laurent. Vas-tu bien?
Oui, salut Delphine.
Ça va bien. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons d'abord parler de l'actu du jour. Nous sommes le 1er décembre, comme je viens de le dire, et c'est la journée mondiale contre le sida. Donc, Laurent, tu nous parleras de ça. Nous irons du côté de l'Allemagne, de la Biélorussie, d'Israël, pour une partie internationale. Après, il y a un truc assez occulte, je dois dire, que je n'ai pas demandé ce que c'était. Le titre dans mon déroulé, c'est « La lumière, c'est la mort ». Ça, c'est Laurent. Voilà, vous aurez compris. Ouais. Ensuite, nous parlons d'un petit peu de nucléaire et de Poutine, les deux ensemble. Et puis ensuite, d'autres soirs, nous verrons comment tout ça se déroule au fur et à mesure.
Oui, ce jeudi 1er décembre, 41 ans après les premiers cas reconnus de cette nouvelle maladie qui s'appelait le sida, sur les côtes ouest et est des États-Unis, lieu où ça a été décelé, mais pas lieu de leur origine. On avait déjà raconté l'origine de cette maladie. Aujourd'hui, donc, se tient la journée mondiale contre le sida. Aujourd'hui, alors, les chiffres datent de l'année dernière, puisqu'on n'a pas fini l'année 2022, donc en 2021, plus de 38 millions de personnes sur la planète sont porteuse du virus. Il y a encore eu 1,5 million de nouvelles contaminations l'année dernière, ce qui montre que l'épidémie ne faiblit pas. D'après les estimations de l'ONU, 650 000 personnes en sont mortes en 2021, soit directement, soit indirectement d'une maladie opportune. L'épidémie ne bouge pas, elle est donc toujours là, enfin elle circule toujours, en tout cas dirons-nous. Bien évidemment, on est quand même loin des scores historiquement élevés des années 90, hein, on avait en moyenne 5 millions de contaminations chaque année, mais ce que nous montrent ces scores un petit peu plus bas, c'est que l'épidémie elle n'est pas contenue, elle n'est pas gérée, elle n'est pas bloquée, elle ne s'éteint pas, elle ne ralentit plus non plus. Elle se développe même dans certains pays, on pense à l'Afrique subsaharienne ou à la Russie par exemple. Donc l'ONU SIDA pointe aussi, se rajoutant là-dessus, des inégalités très fortes, bah, suivant qu'on est riche ou qu'on est pauvre, suivant quel endroit du monde on habite, notamment sur l'accès au traitement, même si c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, bien évidemment. Ainsi, les trois quarts des adultes qui vivent avec le VIH aujourd'hui sont sous traitement. Il en manque un quart quand même. La moitié des enfants qui ont le VIH ne reçoivent aucun traitement. puisqu'il y a quand même beaucoup d'enfants concernés aussi. Les enfants représentent donc 4% du total des personnes atteintes du VIH, mais ils représentent 15% des décès. C'est pour situer un petit peu la problématique sur les enfants qui l'ont attrapé, on le rappelle en général, par leurs parents à la naissance, enfin avant de naître. Voilà. Autre inégalité qui s'accroît, c'est qu'on note, on dénote, d'après l'ONU, aucune baisse de natalité, d'infection chez les gays en Afrique. Ces populations sont toujours marginalisées quand même dans beaucoup de pays africains. Elles ont donc moins accès aux soins. À l'inverse, d'ailleurs, constate l'ONU, les pays qui ont supprimé ou évité la criminalisation de l'homosexualité ont connu, eux, de grands progrès sur la lutte contre le sida au sein des populations homosexuelles. Autre particularité et inégalité du virus, celle-là, elle concerne les femmes, puisque les femmes représentent toujours, aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire, les deux tiers des nouvelles infections. Donc elles sont plus contaminées, dirons-nous, pour différentes raisons, par ce virus. Alors, on va prendre un exemple qui se situe en Afrique, on aurait pu en prendre un autre. On va au Kenya, on a quelques témoignages. Alors, le premier témoignage, c'est Millicent, qui a pris des médicaments tous les jours, depuis qu'elle est petite. Elle ne savait pas pourquoi. Et en fait, elle a découvert à 13 ans qu'elle était porteur du VIH, qu'elle était séropositive. C'est une infirmière qui lui a expliqué. Mais le Millicent est assez représentatif de ce qui peut se passer au Kenya. À 16 ans, elle a arrêté son traitement. Alors pourquoi elle arrête son traitement? C'est pas parce qu'elle n'y a plus accès, c'est parce que ses camarades la harcèlent ou se moquent d'elle. C'est un quotidien kenyan qui raconte ça, Daily Nation, qui fait témoigner ces femmes qui vivent ou ces femmes ou ces hommes, mais là pour le coup c'est des femmes qui vivent des nouvelles contraintes, c'est-à-dire la honte d'être séropositive et finalement ça leur met la pression et ça impose l'arrêt des traitements, et ce qui entraîne plusieurs conséquences. Elles contaminent plus et elles vont mourir, bien évidemment, malheureusement. Alors il faut se rappeler dans l'histoire, hein, jusqu'aux années 2000, on va dire, celles et ceux qui étaient contaminés avec le sida, avec le VIH, étaient quand même ultra stigmatisés, considérés comme des parias. On rappelle que il y a des militants d'extrême droite qui voulaient les isoler dans une île. Enfin voilà, il y a eu beaucoup quand même de choses atroces, et notamment au Kenya. Aujourd'hui, il y a quand même 1,5 million de Kenyans qui vivent avec le virus, 1,5, hein, et 1 million suivent un traitement. Il en manque 500 000, hein, c'est quand même beaucoup, c'est un tiers. Alors, ces traitements antirétroviraux, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont transformé le sida en maladie mortelle, en maladie chronique. Mais ça résout pas tous les problèmes, notamment pour celles et ceux qui ne prennent pas d'antirétroviraux. Au Kenya, 63% des personnes qui sont atteintes du sida sont des femmes. Alors quand je dis sida, c'est aussi séropositive, hein, c'est l'ensemble des malades. Le VIH, on rappelle, quand on est séropositif, on n'a pas développé encore la maladie. Sont des femmes, 63%. Et les contaminations chez les adolescentes et chez les jeunes femmes. Donc l'article du Daily Nation explique que jeunes femmes et femmes entre 15 et 24 ans sont trois fois plus contaminées que chez les hommes du même âge. Donc il y a un énorme problème de prévention. Alors, il y a des groupes de parole qui sont organisés pour les personnes malades, et c'est à ce moment-là que sortent tous les problèmes que vivent ces personnes séropositives, qui parlent tous de stigmatisation, de mauvais traitement, en fait, de la part de celles et ceux qui sont pas malades, et qui, finalement, poussent ces hommes et ces femmes à ne pas se traiter et ne pas prendre de médicaments. Il y a Mildred, par exemple, qui raconte dans ce journal qu'elle a grandi avec le virus comme Millicent, hein, sans le savoir. Elle a découvert, donc ses parents lui demandaient de prendre toujours ses médicaments depuis qu'elle était toute petite. Et en fait, quand elle était au lycée, avec les cours de biologie, elle a découvert que la maladie qu'elle avait, c'était lié à ce virus, à ce VIH. Donc elle a eu, mais elle a mis du temps à comprendre. ce qui se passait, c'était tabou, il fallait pas en parler, on lui donnait juste des médicaments. Et récemment, elle témoigne, elle a abandonné le traitement parce que elle était stigmatisée. En fait, elle a pas abandonné, elle décale ses prises de traitement pour pas le faire devant les gens. Donc ça peut poser problème. Alors certes, les nouvelles formes de trithérapie, de bithérapie, on arrive à avoir des prises journalières, voire encore mieux, des prises pas tous les jours, mais ça concerne pas forcément les médicaments qui sont présents majoritairement au Kenya. Donc il y a une vraie stigmatisation des malades. Alors là, on a pris l'exemple de cet article du Kenya. Il y a pas que en Afrique ou que là-bas, on va pas stigmatiser l'Afrique, du coup, nous non plus. Il y a cette même problématique en Russie, cette même problématique dans pas mal de pays, et même en France, hein, où des personnes cachent leur séropositivité parce que c'est mal vu, parce qu'elles ont peur pour leur emploi, parce que etc., etc. Donc voilà, il y a un vrai problème. La maladie pourrait être endiguée. L'ONU annonçait en 2030, on contrôle, on arrête la propagation, tout ça. On n'y arrive pas pour des raisons on n'en parle pas. Il y a un problème de tabou dessus. Alors souvent, c'est lié à des pressions religieuses, à des sociétés réactionnaires. Mais voilà, donc c'est important que chaque année, on reparle du sida parce qu'on n'en est pas sorti. C'est à toi, tu vas parler de l'Allemagne.
On va parler de l'Allemagne, on va parler d'autre chose, mais en l'occurrence c'est l'actualité hein, de cette semaine. Il y a une quinzaine d'États à travers le monde qui ont reconnu officiellement l'Holodomor, hein, cette extermination par la faim. Excusez-moi, je m'en étrangle, qui a frappé l'Ukraine entre 1932 et 1933 comme un génocide dû au régime soviétique et stalinien en particulier. Et là, ces derniers jours, il y a eu 4 nouveaux pays européens qui ont officiellement reconnu donc cette extermination par la faim du régime soviétique comme génocide. Là, il y a eu la Roumanie, l'Irlande et la Moldavie la semaine dernière, hein, qui avaient mis en place une résolution des parlements de ces 3 pays. Et là, maintenant, on a donc le Parlement allemand, à la chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, qui a donc hier, mercredi, adopté à une grande majorité donc cette résolution qui reconnaît comme génocide la famine en Ukraine provoquée par le régime soviétique stalinien, donc en 1932 et en 1933. Évidemment, c'est une décision importante en ce moment pour l'Ukraine, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas un enjeu de débat. Alors, ce que j'ai appris, c'est que c'est une discussion qui a eu lieu entre la protection des forêts contre les incendies et la candidature de l'Allemagne aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030.
Donc ils ont glissé une question de génocide au milieu.
Ouais, il y a eu 50 minutes de débat, un vote à main levée, et les partis au pouvoir, hein, la coalition au pouvoir, formée par le SPD, les Verts, le FDP, et associés à la droite conservatrice du CDU-CSU, avaient décidé hein, de voter ensemble, cette résolution, ouais. Tous et toutes ensemble. Il y a 2 partis qui se sont fait remarquer, je vais vous expliquer plus loin pourquoi. C'est la gauche, l'extrême gauche, et l'extrême droite, hein, comme ça... Ceux qui disent qu'ils sont toujours dos à dos, ben là, pour le coup, c'est, voilà, c'est les 2 partis qui se sont abstenus. Précisément. Pas opposés, mais abstenus.
Ouais. Voilà, je vous explique. Pas de courage d'aller jusqu'au bout de cette démarche.
Vous vous dites peut-être, c'est quoi cette Holodomor en 1932 et en 1933 ? Parce que c'est vrai, c'est une partie de l'histoire qu'ici en France,
on connaît mal.
On ne connaît pas bien, ou voire pas du tout, hein, d'ailleurs. Ouais. On a en France une habitude de critique du nazisme extrêmement important parce que on a eu les nazis sur le territoire français, ça fait partie d'une histoire et ça fait partie aussi d'une histoire qu'on apprend à l'école. Mais en Europe, il y a des pays qui ont connu et les nazis et les soviétiques et qui en ont un regard extrêmement intéressant, parfois même un peu bizarre, puisqu'on des fois c'est les nazis qui ont libéré du soviétisme, parfois c'est le soviétisme qui ont libéré du nazi, parfois hein, tout ça s'est enchaîné plusieurs fois. Mais c'est vrai que du coup c'est une histoire qu'on connaît mal parfois cette histoire soviétique et donc il faut se rendre compte qu'en 32 et en 33 il y a eu donc une grande idée du côté du régime stalinien, c'est de confisquer les récoltes au nom de la collectivisation des terres. Alors C'est quand même un truc un peu particulier. Donc, les Ukrainiens se seront trouvés donc dans une famine assez absolument déplorable. Et c'est 3 500 000 Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont été victimes donc de cette faim provoquée par la spoliation des récoltes sur leur territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette résolution elle s'inscrit, puisque là, elle est nommée dans la liste des crimes inhumains. Hein, commis par des systèmes totalitaires. Le texte dit que l'ensemble de l'Ukraine a été touché par la faim et la répression, et pas seulement ses régions productrices de céréales, ce qui est important. Hein. La résolution donc estime que la collectivisation a forcé la la direction soviétique, le régime stalinien s'est efforcé de contrôler et de réprimer les paysans ainsi que le mode de vie ukrainien, la langue et la culture, avec pour objectif la suppression politique de la conscience nationale ukrainienne. Et donc c'est bien tout cet ensemble que cette résolution du Parlement allemand vient sanctionner. Et donc c'est pour ça qu'il y a un génocide perpétré par le régime soviétique de Staline, reconnu par l'Allemagne aujourd'hui.
Et il y a des gens qui reconnaissent ce génocide à part l'Allemagne ?
Oui, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une quinzaine d'États à travers le monde. Et donc, ces derniers jours, on a eu la Roumanie, l'Irlande et la Moldavie. Alors, on sent qu'il y a aussi une réaction, évidemment, sur ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, avec la Russie qui a attaqué le pays. Et puis, le 24 novembre dernier, à Kiev, il y a eu des commémorations, puisque c'était les 90 ans de cette famine. Donc, là, on a eu des réactions. Et des réactions qui n'ont pas plu d'ailleurs du tout à la Russie, à M. Poutine, c'est que le pape a employé lui aussi le terme de génocide pour parler de l'Holodomor. Et il a dit que la Russie avait agressé l'Ukraine, et que l'Ukraine, c'est le martyr de l'agression. Donc, c'est intéressant.
Ce qui était quand même le cas, du coup.
Oui, mais il parle de cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il dit que l'Ukraine est agressée par la Russie, il parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, il commémore en même temps. C'est ce génocide. Donc il a pris une position, ce qui fait qu'aujourd'hui M. Poutine s'en est pris au pape et au Vatican. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le Vatican a subi une attaque de hackers, de pirates informatiques. Tu ouvres ta bouche, tu te fais hacker, paf, voilà, c'est comme ça. Donc là, effectivement, c'est reconnaître en tant que tel cette période de l'histoire comme un génocide, c'est extrêmement important. Évidemment, M. Zelensky a expliqué qu'il remerciait les députés pour une décision historique, en disant « la vérité gagne toujours », ça a été ses propos, parce qu'effectivement c'est aussi un soutien politique pour ce qui est en train de se passer, puisque c'est Robin Wagner, je ne sais pas comment on le dit en allemand, veuillez m'excuser, j'ai toujours eu un doute à chaque fois que j'entends son nom et que je le lis, c'est donc ce député écologiste qui est à l'origine de cette proposition de résolution qui a donc été adoptée, c'est de mettre en avant la dictature stalinienne, la cruauté et la famine sur ce territoire ukrainien, et de dire qu'aujourd'hui encore la faim est utilisée comme une arme contre les civils. Donc c'est aussi de son argumentation de renvoyer le passé et le présent sur ce qu'est en train de faire la Russie aussi en Ukraine, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a des territoires qui ont un peu faim quand même.
Ouais, et puis ils attaquent les structures énergétiques, ils attaquent les populations en fait, ça relève du crime de guerre.
C'est Ulrich Letsch qui est du FDP qui lui a expliqué donc que c'était la faim est utilisée comme une arme, je le cite, contre les civils. Il a expliqué: en agissant il y a 90 ans, Staline a échoué, Poutine lui aussi échouera. Bon, moi je trouve qu'il a pas tellement échoué pour faire crever plusieurs millions de personnes, mais en tout cas effectivement le régime stalinien a fini s'effondrer.
Il a fallu du temps,
donc je le trouve un petit peu peut-être bienveillant et optimiste dans cette déclaration. En tout cas, du côté des Allemands, on sent qu'il y a une attaque très forte à travers cette résolution contre la Russie et contre donc cette guerre actuelle menée par Monsieur Poutine. Donc je vous le disais, il y a deux partis politiques allemands qui se sont abstenus face au vote de cette résolution. L'AfD, donc là on est à l'extrême droite, et le Die Linke, qui est la gauche radicale.
Mais alors c'est quoi leurs arguments, eux?
Alors, du côté de l'AfD, j'ai trouvé par exemple une déclaration de Mark Hogan qui dit: comme d'habitude, la politique allemande se drape dans sa supériorité morale, oui au souvenir de l'Holodomor, mais non à l'instrumentalisation de l'histoire.
Parce que normalement ils sont plutôt anticommunistes.
Ouais, mais du coup, ils sont un peu pro-Poutine, peut-être.
Ouais, c'est ça.
On a les mêmes extrêmes droites de partout. Ouais. Donc, par contre, du côté de l'extrême gauche, on est beaucoup plus... Enfin, je vais vous lire. C'est Grégoire Gysi qui a lui expliqué donc du Dilemka. Donc tout le monde semble reconnaître qu'effectivement il se passait une catastrophe. Donc lui il dit la résolution qui nous est proposée part du présupposé que le pouvoir soviétique avait des motivations racistes et ethniques pour affamer les Ukrainiens. La vérité est que Staline s'est dressé contre tous ceux qui étaient contre sa politique d'industrialisation et de collectivisation forcée, indépendamment de leur nationalité ou de leur origine ethnique.
C'est pas faux, en fait, quelque part.
Ouais.
Il a attaqué tout le monde.
Mais en même temps...
Mais c'est une mauvaise excuse.
Ouais. Bon, ils n'ont pas voté contre, mais enfin, c'est quand même dans les deux cas quand même assez tendancieux pourri, un petit peu quand même comme...
Ouais, puis alors, comme image que tu montres, de ne pas condamner Staline pour un génocide, c'est quand même horrible.
Parce qu'effectivement, il y a eu d'autres partis.
Il a fait crever les Russes aussi.
Cette extrême gauche, en tout cas, dit c'est qu'il y a d'autres partis. Cette collectivisation forcée, cette spoliation des denrées alimentaires, elle a touché d'autres partis.
Oui, mais là,
l'URSS. Ouais. Et qu'on pourrait le reconnaître. C'est tout à fait vrai. Mais du coup, allons-y. Reconnaissons peut-être tout ce qui s'est passé ailleurs. Du coup, pour l'instant, la Russie, elle, n'est pas du tout contente. Hein, Monsieur Poutine, que je dis la Russie, c'est évidemment les autorités russes. Et Monsieur Poutine m'explique qu'il ne s'est absolument rien passé, qu'il n'y a pas fait de victimes ukrainiennes seulement, mais qu'il y a aussi des Russes, des Kazakhs. Reprend donc cette position de cette gauche radicale allemande. Voilà, c'est marrant. En tout cas, bon, c'est quand même important. Je signalerai aussi que le Parlement allemand a aussi approuvé une résolution qui a permis d'élargir la loi concernant le négationnisme. Vous savez qu'en Allemagne, il y a quand même quelques règles sur le port de symboles nazis, par exemple, et puis sur la négation de l'extermination des Juifs. Jusqu'à présent, cette négation de l'extermination des Juifs, de la Shoah, elle était passible de peine d'amende et de peine de prison. Et maintenant, grâce à cette résolution, l'approbation publique, la négation, la banalisation grossière du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sont aussi punissables. Tout ce qui a pour but d'attiser la haine contre certains groupe de population et pour trouver la paix publique. Alors, évidemment, il y a des détracteurs en disant là, on touche à la liberté d'expression. Reste qu'en Allemagne, c'est pas un regain de l'extrême droite. Il y a toujours eu une extrême droite, il y a toujours eu des nazillons. Mais comme chez nous, il y a des gens qui se croient absolument tout permis. Il y a un antisémitisme qui était toujours là, comme chez nous aussi, mais qui aujourd'hui sait se montrer en public et ne absolument pas se cacher. Voilà pour cette Allemagne. Je voudrais parler maintenant de Maria Kalichnikova. C'est une opposante en Biélorussie. Elle est emprisonnée depuis 2020 et on a appris par ses proches qu'elle est actuellement en soins intensifs à l'hôpital. Elle avait été placée à l'isolement la semaine dernière. C'est sa famille qui transmet ces informations. Le problème, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup, puisqu'il y a plutôt un flou sur ce qu'est sa situation. En tout cas, elle a été hospitalisée en réanimation, ça c'est pas clair. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi, quels sont ses problèmes de santé. Donc ça pourrait aussi amener à penser qu'elle a peut-être été malmenée, agressée, torturée. En tout cas, Maria Kalichnikova, ce qu'on appelle Masha souvent dans son prénom de familier, vous pouvez retrouver ce prénom parfois dans la presse, c'est une figure, un symbole de la contestation contre le président Alexandre Loukachenko. Après cette présidentielle 2020, elle s'était largement engagée. Elle a été condamnée en septembre 2021 à 11 ans de prison. Alors elle a eu droit à un procès, excusez-moi, à huis clos. C'est pas mal. Et elle a été reconnue coupable de, je cite, « complot visant à s'emparer du pouvoir ». Elle avec ses petits bras. « D'appel à des actions portant atteinte à la sécurité nationale et de création d'une formation extrémiste ». Donc l'opposition, sachez-le, en Biélorussie, vous êtes donc une formation extrémiste. Il y a sa sœur qui a pu s'entretenir avec l'AFP, par exemple, des propos qu'on a pu retrouver dans plusieurs endroits dans la presse française, et qui a expliqué les conditions de détention de sa sœur Maria. Donc elle explique qu'elle était détenue jusqu'à présent dans une prison pour femmes à Gomel, à 20 km de la frontière ukrainienne, que les femmes sont donc obligées de travailler travailler dans cette prison, que si elles ne travaillent pas, elles sont punies, que ce sont dans cette prison de Gomel souvent des prisonnières politiques, avec donc des détentions particulièrement strictes. Il y a des marques jaunes hein, qui sont inscrites sur leurs vêtements pour bien les mettre en avant, mettre en avant leur radicalité, leur extrémisme politique. Donc elles sont plus surveillées, elles ont plus de contrôle. Il y a peu d'affaires personnelles, tout ça est davantage fouillé et contrôlé. Voilà, il paraît qu'elles sont suivies continuellement, même pour aller se laver et aller aux toilettes. Voilà, c'est ce qu'elles racontent dans plusieurs propos qui sont ramenés donc dans la presse française. Elle explique aussi que depuis juin, elle a plus pu avoir d'appels qui ont été accordés avec sa sœur. Il y a son père qui l'avait pu lui parler au téléphone. Et puis, a priori, en novembre, elle a été punie et mise à l'isolement. Mais personne ne sait pourquoi elle a été punie, pourquoi elle a été mise à l'isolement. Et donc, pourquoi aujourd'hui elle est en réanimation à l'hôpital. Alors, du côté des Européens ou des États-Unis, il y a des réactions pour demander des explications et surtout sa libération. Je crois que M. Loukachenko, il en a absolument rien à péter, d'autant plus que comme c'est un ami de la Russie, pour l'instant, il sait exactement ce qu'il a à faire et de quel côté il doit se situer. Je termine avec une nouvelle concernant Salah Hamouri, dont nous vous parlons assez fréquemment dans ce Canu Info. On a appris par sa famille que dimanche prochain, Salah Hamouri va être expulsé. Il est en prison, je vous le rappelle.
Ouais. Officiellement, il est français, d'origine palestinienne.
Oui, puisqu'il est né à Jérusalem.
Ouais.
Je vous rappelle, l'idée, c'est que Salah Hamouri, bon, il a plein de problèmes.
Hein. Il est avocat.
Il est avocat, il pourrait être bouché,
oui,
on en parlerait absolument pareil.
Et il a le défaut de s'occuper des droits de l'homme dans la Palestine occupée.
Tout à fait.
C'est un gros défaut. Hein.
C'est un gros défaut, c'est ce que j'allais dire.
Vu de là-bas, vu d'Israël, c'est un gros défaut.
En mars, il avait été condamné à 3 mois de détention administrative. En septembre, ça avait été rallongé, hein, parce que bon, c'est toujours bien, Israël est un pays démocratique qui parfois ne l'est plus, hein, quand même. Surtout avec les Palestiniens. La France a demandé plusieurs fois sa libération, mais surtout, la France a demandé sa libération et le fait qu'ils puissent continuer à vivre à Jérusalem.
Sauf qu'ils ont demandé gentiment. Hein. Ils envoient un message de temps en temps, ils ne mettent pas la pression. Il ne se passe pas grand-chose du côté du gouvernement français.
Oui, parce que je vous rappelle que Salah, il avait un permis de résidence pour vivre en Israël, vu qu'il est palestinien, mais l'Israël, les autorités israéliennes lui ont révoqué hein, ce permis de résidence. Donc la position d'Israël aujourd'hui, c'est on s'en débarrasse, on vous le renvoie en France. Voilà, donc évidemment... À la fois, on se dit, c'est bien.
Il sera libéré.
Il sera libéré.
Mais il pourra plus retourner.
Et en même temps, il quitte sa terre et son pays et sa ville.
Et puis ce qu'il en faisait, c'est-à-dire tout le travail humanitaire qu'il pouvait faire de dénonciation, de l'occupation, etc.
Donc, c'est une manière aussi de se débarrasser d'un opposant, d'un homme qui s'occupe des droits humains et de nier une nouvelle fois pour l'État d'Israël une certaine démocratie dans son pays. Bon. Au moins, il sera avec sa famille et avec sa femme. Mais c'est vrai que ce qui est complètement dingue, c'est que la famille a appris ça à l'oral. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu un papier quand ils ont appris qu'il allait être expulsé ou, comme on dit parfois, déporté. Voilà pour les parties internationales qui me concernaient. Et nous attendons maintenant, s'il te plaît, j'en bafouille. Nous attendons donc maintenant, sans bafouiller, cette partie occulte de notre...
Non, c'est pas occulte. On parle
ce jeudi 1er décembre, la lumière, c'est la mort.
Donc. On parle de lumière.
Alors, allons-y.
Bon, si je vous parle de lumière en cette période, vous allez croire que je vais aborder la question de la fête des Lumières, le truc horrible qui va nous arriver la semaine prochaine. Fête basée sur une énorme fake news religieuse, un beau mensonge, une belle invention, véhiculée, portée par les cathos lyonnais depuis un peu plus de 300 ans. Mais non, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'une étude publiée dans le magazine Science Advances, une étude britannique qui révèle les risques environnementaux liés à l'éclairage nocturne artificielle. Alors jusque-là, rien de nouveau, mais surtout de son évolution récente, et là il y a des nouvelles données qui sont intéressantes, mais dans le mauvais sens du terme. Alors ils sont basés en fait sur des millions de clichés pris par la Station Spatiale Internationale, et là ils ont vu une chose assez incroyable, c'est la progression, alors l'Europe est très allumée par exemple, ça on le savait déjà, mais c'est la progression de la couleur. Autrefois, on était très allumé en jaune. Là, aujourd'hui, on est très allumé en blanc tirant sur le bleu. Et c'est l'impact, en fait, des LED, les diodes à électroluminescence, hein, qui remplacent petit à petit les lampes fluorocompactes qui avaient remplacé les lampes à incandescence et autres lampes au sodium. Donc voilà. Alors, on parle bien sûr de l'éclairage public. On pense à ça. Alors l'éclairage public, hein, il augmente, hein, 89% de plus en France depuis les années 90. Donc c'est assez fou. Il y a 3,5 millions d'enseignes de magasins qui s'allument chaque soir, a priori dans l'Hexagone. C'est les chiffres du rapport, enfin de ce qu'on peut lire. Donc tout ça s'additionne. Les magasins, les écrans dans les magasins qui restent allumés le soir, les bureaux allumés la nuit, même quand ils sont vides. Plus tous ces millions de lampadaires, 11 millions de lampadaires, hein, je n'avais pas donné le chiffre, tout ça, bah, ça a un impact important. Et notamment, les scientifiques sont allés jusqu'à pointer le nouvel impact de ces lumières blanches tirant vers le bleu, c'est le problème des LED, en fait, qui sont nouvellement installés. Alors, c'est très inégal, hein, suivant les pays d'Europe. Il y a des pays qui sont encore très jaunes, on va dire, très jaunes-orangés, comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche, qui ont gardé ces fameuses lampes à sodium. Et puis il y a des pays comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Espagne, qui ont basculé très vite, suite à la propagande gouvernementale, pour installer des LED partout. Alors, contre un bel effet rebond, hein, sur l'installation des LED, tout le monde a dit bah, ça fait économiser de l'énergie, donc les municipalités, entre autres, et les magasins aussi, ont installé plus de lumière, parce qu'il y avait des économies, et qu'on pouvait en installer plus. Du coup, ça augmente encore la luminosité. Et les scientifiques pointent un impact plus important sur les animaux, sur les insectes, sur les arbres, sur plein de choses, en fait, de cette lumière émise par les LED, qui est donc très blanche et qui tire un peu par le bleu. On savait l'impact sur les êtres humains, sur les yeux, tout ça. On avait eu pas mal d'études scientifiques ces dernières années sur les écrans à LED. Eh ben, on a aussi un impact sur les chauves-souris, sur notamment la production de mélatonine, qui est encore plus perturbée par ces lumières très blanches que par les lumières jaunes-orangées qu'on pouvait avoir dans certaines lampes à sodium ou des choses comme ça. Donc, ce que montre l'étude, c'est que non seulement la pollution lumineuse reste très forte dans les villes, mais en plus, elle a changé, elle devient encore plus dangereuse. Donc ça casse un petit peu l'idéologie dominante sur il faut mettre des LED partout. Peut-être qu'avant de mettre une nouvelle technologie quelque part, il faudrait peut-être se poser des questions. Et que l'éclairage, c'est pas forcément le plus fort, la plus forte consommation de l'électricité en France, et qu'il y avait peut-être moyen de réduire cet éclairage en intensité sans changer le type de lumière, avec des lumières avec voilà, des longueurs d'onde plus réduites et qui aillent moins vers le bleu notamment. Et puis quand c'est blanc, c'est qu'il y a toutes les longueurs d'onde de la lumière. Donc voilà, c'est intéressant cette étude qui pointe la dangerosité supérieure des LED pour la nature. Voilà. Et alors, une petite info très courte que j'avais appelée « Soutenir le nucléaire, c'est aussi soutenir Poutine ». Alors, c'est pas nouveau, hein. Mais quelques dizaines de fûts d'uranium enrichis, plus 10 containers d'uranium naturel en provenance de Russie sur un cargo qui s'appelle le Mikhail Dudin, a été déchargé le 29 novembre de cette année à Dunkerque. Comment ça ? Comment ça on fait ? Il y a toujours des liens entre la France et la Russie. Oui, la France continue de faire du commerce avec la Russie, parce que c'est le nucléaire, et que le nucléaire, c'est bien, qu'il faut le défendre jusqu'au bout. C'est l'hypocrisie du système. Alors, c'est Greenpeace qui a dénoncé ce qui s'est passé avec l'arrivée de ce cargo Mikhail Dudin, là. Alors, après, l'uranium est parti soit dans la vallée du Rhône, soit à Lingen, en Allemagne, dans la vallée du Rhône. C'est là où on fabrique, enfin où Areva, enfin son descendant fabrique le combustible pour leur belle centrale nucléaire. Alors, ce qui est triste, c'est ce lien. D'abord, faut rappeler, la France est dépendante à 100% des autres pays pour son combustible nucléaire. C'est pas la Russie qui nous vend majoritairement, qui nous vend en fait de l'uranium en tant que métal, l'uranium naturel de base. Mais en fait, on a un accord très fort avec la Russie. Enfin, EDF et toute la bande, tous les nucléophiles, Macron compris là, tout ça, pour en fait envoyer, recycler une partie de l'uranium issu des centrales récupérées voilà, ils récupèrent nos 56 réacteurs quand ils fonctionnent. Enfin, ils les arrêtent d'abord et voilà. Et c'est parce qu'en fait, pour faire ça, il y a qu'une seule installation qu'il fait, c'est Rosatom, la boîte russe qu'il a, et ça se situe en Sibérie. Donc, malgré tous les discours de Macron qui dit on n'aura aucune faiblesse, aucun esprit de compromission avec la Russie, en fait, c'est juste un énorme menteur, puisqu'en fait, quand ça concerne le nucléaire, la coopération commerciale, les liens commerciaux, le business avec la Russie continue. Alors c'est pas la première fois que Greenpeace dénonce ça et que d'autres le dénoncent, puisque c'était en août dernier, la France avait reçu une livraison de 52 fûts venant de Russie, donc c'est pareil, de fûts d'uranium. Donc voilà, il y a une hypocrisie incroyable. Le nucléaire nous rend totalement dépendants des autres, et en plus le nucléaire français finance l'armée russe indirectement avec l'argent qu'on donne à Rosatom. Donc voilà, c'était pour rappeler tout ça, toute cette hypocrisie générale. Grosso modo, le nucléaire a quand même beaucoup de torts et beaucoup de maux rien que pour lui.
Alors je vais parler d'Airbus qui s'est pris une petite amende, mais petite en fait. Ça paraît toujours comme ça beaucoup, hein, mais en fait c'est petit. Airbus a donc accepté de payer une amende de précisément. Soyons précis. 15 856 044 euros.
C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal.
Ouais, mais en fait, non. Tout ça pour éviter des poursuites pénales. Hein,
Ah oui, ils ont acheté la justice, ça s'appelle.
Ça s'appelle.
Mais c'est autorisé,
ça.
Il paraît, d'acheter.
Ouais,
la justice. Quand t'es riche,
tu peux acheter la justice. C'est convention. Donc, tout ça parce que Airbus était soupçonné de corruption, hein, pour la vente d'appareils liés à la Libye et au Kazakhstan en particulier, entre 2006 et 2011. Donc, c'est en fait le tribunal judiciaire de Paris qui a homologué une convention judiciaire d'intérêt public. Et oui, ça s'appelle un CJIP. Qui a donc été conclu entre Airbus et le parquet national financier, et donc d'où cette amende. Cette convention, elle a été validée hier, mercredi 30 novembre. Alors, du côté du parquet national financier, hein, les magistrats ont noté un caractère répété des agissements corruptifs d'Airbus, et en même temps, ils se disent, bon, c'est une époque ancienne, je cite, hein, époque ancienne, que les faits reprochés, bon, bah, c'est bien, mais finalement, il y a eu coopération, hein, d'Airbus. Et puis le PNF estime qu'il y a une amende équitable, juste et adaptée. Le truc, c'est que effectivement cette pénalité ne veut pas dire qu'il y a culpabilité. C'est bien ça, moi qui me chiffonne un chouïa quand même. Alors bon, comme je le disais, c'est pas beaucoup en fait, hein, c'est 15 856 044 euros. Mais effectivement, il faut se souvenir que Airbus s'était déjà pris une amende beaucoup plus conséquente en 2020, 3,6 milliards hein, d'euros à l'époque. Ouais. Ah, c'était plus conséquent.
Là, c'était
quand même.
Déjà
là,
un plus gros
chiffre. Les esprits, normalement, clac. C'était pour éviter des poursuites devant la justice française, mais les justices britanniques et des États-Unis aussi, sur des enquêtes donc d'irrégularité, de fraude, corruption, tout ça. Donc, hein, sur des contrats de vente d'avions et de matériel militaire. Donc, si vous voulez, cette amende, il faut voir comme un complément, puisqu'à l'époque, le PNF n'avait pas pu faire rentrer certaines petites problématiques pour des questions de procédure dans la première amende. Donc, on en ajoute une petite couche, mais pour autant, Airbus n'est pas coupable. Donc il faut rappeler qu'il y avait juste quand même trois informations judiciaires qui étaient menées à Paris. Il y avait donc des soupçons de financement libyen, ça vous parle ? Présidentiel 2007, Sarkozy. Donc là, il y avait une enquête qui était ouverte en 2013, hein, qui s'était intéressée à la vente de 12 avions Airbus au régime de M. Kadhafi. Il y avait l'affaire dite des Casaguettes. Hein, ça c'est aussi, c'était ouvert en 2013. Donc là, c'était des soupçons de corruption et commissions illégales versées à des intermédiaires. Et là, on est toujours sous la présidence de Monsieur Sarkozy. Voilà, voilà. Et puis, une troisième information judiciaire qui concernait des soupçons de corruption du gérant d'une société privée de son fils pour des contrats en République tchèque, au Koweït et au Turkménistan. Bon. Des sous. des soupes. Vous savez, aujourd'hui, avec la nouvelle loi pourrie, la Loumip, là, il paraît que nous aussi, quand on va faire des bêtises, eh ben, au lieu de nous mettre en prison, on va nous faire payer maintenant.
Ouais, mais moi, j'ai pas 15 millions de côté, là.
Non, mais Airbus, toi, on va te prendre 200 balles quand tu te fais pincer avec du shit, en train de fumer un joint sur le bord du trottoir. C'est à peu près ça, non, l'amende, un truc comme ça. Bon, ben, Airbus a quelques amendes, mais ça n'empêche pas, a priori, la récidive. Ouais. L'argent ne vous arrêtera pas de fumer un pétard sur le trottoir. Et bien, a priori, pour les multinationales, c'est un peu pareil.
Allez, une très bonne nouvelle.
Ah, ben, j'avais une autre info, mais tu...
Ben, c'est toi qui as dit François, là.
Ah, c'est moi qui fais la bonne nouvelle.
Ben, c'est toi qui fais la bonne nouvelle.
Oui, alors, le site François, vous savez, ce site complotiste...
Issu d'un journal historique.
Alors, issu. Oui, ouais. Ils avaient récupéré un nom en enlevant le tiret au milieu, en accrochant tout ça, en n'ayant plus les mêmes personnes qui travaillaient dedans, mais avaient récupéré effectivement ce nom.
Pour nous faire croire que c'était un journal.
Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, un média journalistique en ligne, avec des journalistes dedans et de la presse. François, site complotiste...
Sans journaliste, du coup.
D'extrême droite aussi, peut-être, on peut dire, quand même. Hein.
Carrément.
Carrément, merci. Donc, a perdu, enfin, ça y est, son statut de service de presse en ligne. Alors, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est plus un service de presse en ligne, ce n'est plus reconnu comme tel. Et puis, surtout, ça va l'empêcher pour avoir ça va empêcher, donc, ce site d'obtenir des aides publiques et des avantages fiscaux. C'est donc la Commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, qui a donc décidé de ne pas renouveler la reconnaissance de service de presse en ligne à François. C'est donc une décision qui est notifiée à l'éditeur. C'est Mine Media qui a sorti l'affaire et puis qui a donc information qui a donc été vérifiée par les autres, le reste de la presse et des médias. Donc je vous rappelle que cette commission la CPPAP c'est composée de représentants de l'État, des éditeurs de presse, qui a finalement enfin acté que François ne respectait plus l'ensemble des critères fixés par décret pour obtenir cette qualification. Ça faisait râler déjà, parce que tout le monde avait envie de défoncer François, vous m'excuserez cette expression, avait envie que quand même ce média en ligne puisse se faire taper sur les doigts en perdant ce logo, finalement ce label journalistique. Donc en 2021, le site avait quand même été maintenu malgré toutes les demandes répétées d'un certain nombre d'organisations et d'associations, mais c'est vrai que le média se cachait derrière deux trois journalistes, voyez.
Mais il n'y en avait plus, puisqu'il avait viré tous les journalistes.
Ils en avaient réussi à en avoir un tiers, une carte de presse. Ouais, ça fait pas de toi déjà un journaliste, rappelons-le. Mais c'est vrai que même en perdant aussi ce statut, ça va être plus difficile d'obtenir des cartes de presse. En tout cas, voilà. Donc c'est une petite chose de plus. Voilà, puisqu'en fait, le ministère de Culture avait expliqué en 2021, qu'il y avait quand même deux journalistes permanents et quatre pigistes, ce qui avait permis à François donc de conserver ce statut de presse en ligne. Donc on sentait que quand même on avait un gouvernement qui n'osait pas trop inciter tout le monde dans cette commission à prendre une décision qui pourtant semblait s'imposer. Bon, nous, ce qui nous fait marrer surtout, c'est que du coup il y aura une perte d'une exonération fiscale sur les dons, d'un taux de TVA réduit, tout ça, voilà. Parce que attaquer au porte-monnaie, c'est toujours un peu ce qu'il y a de mieux, parce qu'on sait que chez les complotistes, c'est quand même malgré tout assez facile de récupérer de l'argent, parce qu'il y a un soutien de fanatiques.
Ouais, en même temps, ils s'arnaquent entre eux, parce qu'il y a plein de cas.
Exactement.
Où les chefs complotistes sont barrés avec la caisse.
Et je vous rappelle ce qu'on avait raconté à l'époque, c'est que déjà Google avait coupé l'accès de François au réseau publicitaire, ce qui avait fait évidemment des recettes en moins pour ce site internet. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu le travail de France 2 qui avait fait un doc qui s'appelait Fake News, la machine Afrique, et qui avait mis le doigt sur François au-delà des groupes anti-complotistes, et ce qui avait fait que évidemment le gouvernement avait dû un petit peu s'y intéresser, a mis du temps. Voilà, c'était juste la bonne nouvelle.
Alors moi j'ai une première nouvelle, on va reparler un peu des choses en lien avec le complotisme du coup, puisqu'on va parler un peu vaccination. Alors c'est un sujet qui reste toujours d'actualité, on a toujours ces anti-vax qui sont peu nombreux mais super efficaces, enfin suffisamment nombreux aussi pour bloquer un peu la machine et pour tuer des gens, mais ça c'est une autre problématique. On l'a vu la semaine dernière avec cette proposition de loi immonde de la part de la France Insoumise, essentiellement pour faire plaisir à ses lecteurs anti-vax, puisqu'ils en ont a priori. On a vu d'ailleurs réapparaître quelques hashtags qu'on avait un peu oubliés, du style pas ma gauche ou anti-validisme. Alors pour info, là, le validisme, on l'utilise pas beaucoup ce mot. C'était aussi utilisé comme étant le capacitisme. En fait, le validisme, hein, c'est une discrimination qui peut porter, enfin, une forme de discrimination, de préjugé, de traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap. C'est-à-dire que les gens valident, s'estime la norme et donc discrimine les autres. Ça marche pas mal avec le système médical, hein, qui a toujours fixé comme les gens normaux sont les gens qui sont pas malades. En fait, les gens normaux, c'est tout le monde, les malades et les pas malades. Mais ça, on a du mal à le faire comprendre. Et du coup, on a ce validisme qui est très fort, qui est remonté d'ailleurs avec le Covid, hein, ou avec les pressions des anti-masques, etc. On a basculé complètement dans le validisme, hein, puisque aujourd'hui, il y a un mépris total des gens malades, des immunodéprimés qui ne peuvent plus sortir, qui sont coincés. Enfin voilà, on a ces politiques-là mises en œuvre. Donc on a vu réapparaître ce mot anti-validisme. C'est pour ça que je voulais ouvrir là-dessus. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas, qu'on n'en avait pas parlé et c'est ressorti. Bon, on va plutôt parler de la vaccination puisqu'on a un bilan aujourd'hui qui est fait sur une campagne qui est en place en France depuis presque 20 ans, puisque c'est la campagne contre une série de virus qui s'appelle les papillomavirus humains. C'est une vaccination qui est recommandée chez les jeunes filles depuis, il faut le faire avant l'adolescence, hein, donc chez les jeunes filles depuis le 2007. C'est le seul moyen quasiment efficace d'empêcher les cancers du col de l'utérus d'arriver. C'est un truc assez fort. Donc c'est plus de 6000 morts en France chaque année. Hein. L'étude de Santé publique France, notamment, et pas que, nous explique que la couverture vaccinale des femmes, donc de 15 à 18 ans, le bilan est fait là-dessus, est estimée aujourd'hui à 43%, 43,6%. Alors ça augmente par rapport à 2018, on est à 29,4%, mais on est ridiculement bas par rapport à des pays comme la Finlande, la Hongrie, Malte, Norvège, Espagne, Royaume-Uni, Suède, qui sont à plus de 70% de jeunes filles de 15-18 ans vaccinées. Alors ici, il y a une forte influence vraisemblablement des mouvements anti-vax pour empêcher, pour limiter l'accès à cette vaccination. Alors, dans ce qui est pointé dans cette étude, et ce qui est plus intéressant, parce que ça c'est assez classique, que la France soit à la rue, le pays hein, de Pasteur, à des gens qui ont peu de culture scientifique, on le sait déjà depuis déjà moult années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement les différences, les inégalités territoriales. Et par exemple, quand on va dans les Outre-mer, 13,8% des jeunes filles sont vaccinées en Guadeloupe, 17% en Martinique, 22,6% en Guyane, 24% à La Réunion, 2 à 3 fois moins que en métropole. Et on comprend un peu l'attitude de la France insoumise, puisque c'est dans ces régions-là que la France insoumise a fait ses plus gros scores. Donc, on comprend l'attitude ambiguë, voire pro-antivax, du parti, du leader Maximo, là, de Monsieur Mélenchon. Alors, on notera, ce qui n'est pas pointé par l'étude, mais on rappellera que la vaccination est aussi recommandée chez les garçons, les jeunes garçons. Donc, en France, on est à la bourre, hein, c'est recommandé que depuis 2021. Mais alors là, le chiffre est quasi négligeable, hein, des jeunes garçons vaccinés. Pourtant, les jeunes garçons sont concernés aussi, d'abord pour pas contaminer les filles. Ah mais ça, l'égoïsme, ça marche pas, hein. C'est une société qui est encore masculiniste, même dirons-nous, puisqu'on ne vaccine pas les garçons qui pourraient protéger les jeunes filles ou les futures femmes, hein, parce que c'est après que la contamination elle arrive. Ça, on a toujours ça. Mais ce qui est con dans ces imbéciles de masculinistes, c'est qu'en fait, les garçons, les futurs hommes, sont concernés aussi. Puisque on a beaucoup de cancers de la sphère ORL, larynx, langue par exemple, dont l'origine est ces papillomavirus. Alors comme il n'y a pas de test en France quand on a ce genre de cancer, et c'est pas publié, donc il y a un énorme tabou et on le dit pas en France. Mais les pays anglo-saxons qui sont en avance là-dessus parlent beaucoup de tout ça, du fait que une partie des cancers de la sphère OL est due à ce papillomavirus, donc ça touche les hommes. Ça touche aussi l'anus pour une autre partie de la population. Mais voilà, donc ça touche tout le monde finalement. Mais bon, là, on va pas. Voilà, c'est trop compliqué aujourd'hui d'arriver à développer ce genre de truc dans une société avec autant d'antivax. Et je vais essayer de terminer en arrivant à parler. On va aller en Russie. Une petite histoire, parce que je trouvais la, la manière de fonctionner intéressante. On va parler de Alexandra Skotchilenko. Alors, elle est plus connue sous le nom de Sacha Skotchilenko, qui est une sorte de visage un peu particulier de la dissidence russe. Alors, dans les faits, c'est une musicienne, une artiste russe, qui s'est exposée publiquement, qu'elle exposait ses idées publiquement, notamment son opposition à la guerre, à l'attaque en Ukraine. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée dans un supermarché, dans une supérette de Saint-Pétersbourg, et elle a remplacé les prix sur les produits par des petites étiquettes, où elle révélait des infos sur les conséquences des attaques russes. Alors c'était en mars-avril, hein. Donc c'était quand ils avaient attaqué le théâtre, là où il y avait des enfants dedans, et puis elle mettait aussi le nombre de morts russe, parce que ça c'est des sujets tabous. Et puis elle a été arrêtée, et c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'elle est toujours en taule, hein, la pauvre Sacha. Son avocat dit que ça va pas bien, donc elle encourt toujours 10 ans d'emprisonnement, on va reparler pourquoi, et elle dit que bah, voilà, son état se dégrade, les conditions sont pas bonnes, elle développe une maladie cardiaque chronique, enfin bon, il se passe plein de choses, mais c'est les prisons russes qui sont pas très sympathiques. Alors il y a aucune prison dans le monde qui est sympathique, mais il y a des niveaux d'horreur, et la Russie fait partie de celles où il vaut mieux pas aller, avec l'Iran, avec d'autres, voilà. Bon, ceci dit, éviter les prisons françaises, c'est pas un mal non plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'après le discours officiel, une dame âgée est tombée sur ses étiquettes. Une dame âgée qui soutient la guerre, qui trouve que l'armée russe fait un boulot génial, tout ça, et elle a été choquée. Et donc, ce serait par elle que l'État serait arrivé et qu'il la poursuive donc avec ce nouvel article, l'article 207.3 du code pénal russe, qui interdit de dire des choses négatives sur l'armée russe. Donc, elle est poursuivie pour ça. Alors, c'est pas la seule à avoir utilisé cette technique. Ça avait été un petit peu mis en avant en Russie par des groupes de résistance féminine, notamment, qui disaient, ben voilà, un des moyens de montrer notre opposition en prenant moins de risques, c'est d'aller poser ces étiquettes pour remplacer les prix par des informations, des vraies informations. Alors, à l'époque, ils arrivaient encore à avoir des informations sur la presse indépendante russe, qui aujourd'hui est quasiment éteinte, mais il y a aussi des informations qui circulent sur, notamment par Telegram, hein, puisque tout est crypté. Donc voilà, elle est en taule, elle va sûrement se prendre 10 ans minimum. Enfin, normalement, c'est 10 ans la peine. C'est pas la seule, hein, cet article de loi tout récent qui a été donc créé juste au début de la guerre a déjà permis au pouvoir totalitaire russe de mettre 200 opposants en taule. Des opposants qui étaient des fois des simples étudiants, des simples enseignants, juste des pacifistes qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Hop, on arrête, vous avez donné une info sur l'armée, c'est pas la même que l'info officielle, et vous tombez à cause de cet article 207.3 du code pénal russe. Voilà, j'ai fini pour moi ce que je voulais dire aujourd'hui.
Eh bien, on va vous laisser quand même cette semaine. On espère que vous avez beaucoup rigolé comme nous face à la bêtise de la FNAC et de ses dirigeants et dirigeantes qui, mais vraiment, ont passé pour les gros bêta qu'elles sont en voulant censurer un jeu antifasciste, tout ça sur la demande de la police d'extrême droite.
Ils ont surtout montré que dès que quelqu'un d'extrême droite leur disait quelque chose, ils agissaient sans regarder.
Hein. Et puis là, finalement, ils ont dû se dire que face à la Fronde qui leur demandait de retirer la moitié des ouvrages pourris qu'ils ont en rayon,
ils ont dû se dire
oulala, on a mis le doigt dans l'engrenage, ouais, à devoir retirer la moitié de nos rayons.
Parce qu'ils vendent Mein Kampf, ils vendent des trucs horribles.
C'est facile, ils vendent plein d'autres choses,
racistes,
des bouquins homophobe,
ouais.
Des trucs complotistes, des trucs, enfin voilà, donc bon, ça nous a fait quand même réagir nous aussi. On imagine que vous aussi vous avez peut-être écrit à la FNAC. Alors maintenant on a l'extrême droite qui joue en disant nous appelons à boycotter la FNAC.
Eh ben, allez. S'il y a moins de fachos dans la FNAC.
De toute façon, l'idée, c'est plutôt acheter tes livres dans une librairie indépendante dans ton quartier, s'il y en a encore, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Bon, mais après, c'est vrai que la FNAC, là, ils ont montré quand même.
Un mauvais visage.
Ouais, enfin bon.
Là, en termes d'image, il va falloir quelques 6-8 mois de campagne de pub pour redresser cette image qui a pris un coup. Hein. On rappelle, la FNAC, c'était un truc un peu particulier avant, quand c'était un groupement d'achat, tout ça. C'était presque un truc de gauche.
Ouais, puis il y avait des salariés engagés.
Ben là, beaucoup moins, là, du coup.
Bah, les salariés le sont peut-être toujours pour une partie.
Les anciens, en tout cas.
Mais en tout cas, pour le reste... Bah, en même temps, quand on te vend des spatules...
Ouais, c'est ça. Là, c'est plus un truc culturel. Il faut arrêter. Voilà, ils vendent des aspirateurs.
Je vous rappelle, un Fnac Darty, vous avez la même chose
de
chaque côté. Voilà. Donc, on vous souhaite en tout cas une bien bonne soirée. Il y a plein d'actu. Hein. Il y a la SNCF en grève. Il y a des salariés du nettoyage toujours en grève à PRH.
Mais la municipalité écolo a engagé une société privée pour casser la grève.
Et la SNCF aussi. Hein. Tout le monde est d'accord, main dans la main, pour casser cette grève. Voilà. Enfin, il se passe évidemment beaucoup de choses dont nous ne vous parlons pas dans cette émission précise, mais on vous rappelle qu'il y a du Canu Info avec des équipes différentes du lundi au vendredi, et donc plein de moyens d'avoir des infos avec voilà, des voix différentes, et c'est toujours aussi intéressant.
D'ici 5 minutes, vous aurez la petite cuillère. On va vous laisser en compagnie des bandes continues le temps qu'on fasse la jonction, parce qu'on a terminé un peu plus tôt.
Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao,
bye
ciao.
Bye.
Je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
Taltaga se votu, sentum me leulu puden, che clere predicadu, sentum ma che uca dalgen, cugine in sun si priva e camma.